Vous écoutez, on lit pour vous.
Des journalistes en environnement qu'on tente de réduire au silence. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 12 juin 2024 dans Le Devoir. Dans le monde, près de 4 journalistes sur 10 qui couvrent l'environnement et la crise climatique ont été victimes de menaces de toutes sortes en raison de leur travail, révèle un récent et détaillé rapport de chercheurs universitaires en Australie. Au Québec, les journalistes spécialisés consultés par Le Devoir ne rapportent pas de menaces physiques, mais ils affirment recevoir leur lot de courriels harcelants et d'insultes sur les réseaux sociaux. Le rapport international révèle aussi que 11% des journalistes dans ce domaine ont subi de la violence physique et certains ont même vu leurs collègues se faire assassiner. Le tiers de ceux qui ont été sondés rapporte aussi avoir reçu des menaces de poursuites juridiques. L'étude « Covering the Planet » a été réalisée par une équipe de l'Université Deakin, en Australie. Ces chercheurs ont effectué un sondage anonyme d'octobre 2023 à janvier 2024 auprès de 744 journalistes couvrant l'environnement dans 102 pays, en plus de mener des entrevues détaillées auprès de 74 journalistes. L'un des principaux constats est que 39% des journalistes sondés ont rapporté qu'ils sont occasionnellement ou souvent menacés. La même proportion d'entre eux reconnaissent s'être censurés par crainte pour leur sécurité. Les menaces viennent la plupart du temps de ceux qui mènent des activités illicites nuisant à l'environnement, disent-ils, comme l'exploitation forestière illégale. Tués parce qu'ils couvraient l'environnement. Pour les chercheurs, ces données sont loin d'être anecdotiques. Entre 2005 et 2016, il est estimé que 40 journalistes ont été tués en lien avec leur travail de couverture de l'environnement, plus que le nombre de journalistes tués en couvrant la guerre des États-Unis en Afghanistan, peut-on lire dans leur rapport. Certains ont fait les manchettes, comme le journaliste britannique Dom Phillips, assassiné au Brésil en 2022, mais d'autres sont restés dans l'ombre, comme Shubham Mani Tripathi, tué en 2020 alors qu'il couvrait des activités minières illégales en Inde. Selon Reporters sans frontières, RSF, les journalistes qui travaillent en environnement sont plus susceptibles de vivre de la violence que les autres. Covering the Planet n'évaluait pas le contenu des articles journalistiques. L'étude avait plutôt pour objectif de donner une voix aux journalistes et à leurs expériences, leur demandant leurs observations sur une foule de sujets. Comme toute étude, celle-ci a ses limites. Par exemple, les journalistes de certains pays étaient surreprésentés par rapport à d'autres. Mais les constats généraux ressemblent à ceux de l'étude de l'UNESCO, publiée en mai 2024. Si cette dernière rapporte plutôt que 70% des journalistes en environnement ont été attaqués, menacés ou ont subi des pressions liées à leurs activités, cette proportion, plus élevée que le 40% de l'étude de Deakin, s'explique par une méthodologie quelque peu différente et le fait qu'elle inclut les « pressions » dans son pourcentage. Insultes au Québec. Au Québec, 3 journalistes spécialisés en environnement, interviewés par Le Devoir, n'ont pas rapporté de menaces à leur intégrité physique, mais ils soulignent que leurs boîtes courriels sont remplies de messages harcelants et d'insultes. « Tous les jours », rapporte notre collègue et contributeur au courrier de la planète, Alexandre Shields, affecté aux dossiers environnementaux. Il s'est notamment fait traiter de « vidange » pour ses articles et un internaute l'a même invité à s'enlever la vie. Ce n'est pas « je vais te casser la gueule », mais c'est quand même très violent comme propos. Les réseaux sociaux ont beaucoup facilité les attaques contre les journalistes, dit-il. Les insultes sont souvent très personnelles, très méchantes, ajoute Étienne Leblanc, journaliste pour Radio-Canada. Je me fais traiter de tous les noms d'oiseaux dès que je publie quoi que ce soit en relation avec les changements climatiques. Ce type de courriel a décuplé depuis 8-9 ans, note-t-il. Ça peut être très lourd. On est humain, souligne Éric-Pierre Champagne, journaliste pour la presse et président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ. Les trois s'entendent sur plusieurs points. Ce qu'ils vivent au Québec est bien moins difficile en comparaison avec leurs collègues dans certains coins de la planète, comme ceux qui écrivent, par exemple, sur la déforestation en Amazonie. Ils risquent leur vie tous les jours, juste parce qu'ils font leur travail, relève M. Shields. De son côté, M. Leblanc note ne pas avoir reçu de menaces ici, mais avoir senti de la pression lorsqu'il était en couverture à l'étranger. Par exemple, dans l'État mexicain du Chiapas et en Égypte, où lui-même et son équipe savaient qu'ils étaient suivis. De plus, tous trois ont insisté sur ceci. Les journalistes féminines sont plus la cible de la haine qu'eux. Recrudescence du climato-scepticisme. Finalement, ils estiment que le harcèlement et l'intimidation des journalistes en environnement vivent un regain depuis la fin des restrictions imposées par les gouvernements lors de la pandémie de COVID-19. Il y a une recrudescence du climato-scepticisme, note M. Champagne, qui croit que les citoyens préoccupés par les mesures sanitaires et le vaccin ont depuis investi leur énergie à protester contre les mesures visant à réduire le réchauffement climatique. Les trois journalistes d'expérience affirment ne pas faire d'autocensure par peur de représailles, contrairement à la tendance notée dans le rapport Covering the Planet. M. Leblanc note toutefois qu'une de ses collègues a préféré passer son tour quand la possibilité de faire un reportage sur les VUS fut discutée, le dernier qu'elle avait rédigé sur le sujet ayant suscité une déferlante d'insultes violentes. Interrogé sur de possibles solutions à ce climat toxique pour les journalistes, le président de la FPJQ, Éric-Pierre Champagne, a répondu « Continuer à faire notre travail et à bien le faire, en investissant dans la couverture et en prenant le temps de bien expliquer les enjeux climatiques. » Il déplore aussi cette tendance qu'ont certains politiciens à traiter les journalistes en environnement de « militants », ce qui a pour conséquence de miner leur crédibilité. Une situation aussi relevée dans le rapport de l'Université Deakin. Et en même temps, des citoyens accusent les journalistes d'être les porte-voix du gouvernement, ajoute M. Leblanc. Invité à partager ses réflexions sur le rapport Covering the Planet, M. Shields indique qu'il démontre que le journalisme environnemental est plus important que jamais parce qu'il faut prendre les bonnes décisions, et pour cela, il faut que les gens soient informés. Pour sa part, le président de la FPJQ se réjouit de constater que la couverture médiatique en environnement est en croissance un peu partout dans le monde. Quant à M. Leblanc, il dit être heureux de vivre dans une démocratie où il peut effectuer son travail. Mais il avoue parfois penser, avec la violence des réactions en croissance, qu'au fond, ça ne prendrait pas grand-chose pour que l'opposition arrive à un autre niveau. C'était « Des journalistes en environnement qu'on tente de réduire au silence », un texte de Stéphanie Marin, paru le 12 juin 2024 dans Le Devoir.
Aux quatre coins du cosmos, un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 août 2024 dans La Presse. Des planètes et des étoiles orphelines au magma lunaire en passant par les océans des satellites de Saturne, les astronomes font des pas de géant dans leur compréhension du cosmos. Mais les énigmes demeurent titanesques. L'océan de Mimas. Mimas sort du lot parmi les 146 lunes de Saturne. Elle est la plus petite parmi les lunes sphériques, Saturne a 7 lunes non sphériques, avec un diamètre de 400 km, et aussi la plus proche. Elle vient d'ajouter à son unicité, avec un océan liquide situé sous sa surface glacée, qui serait apparu il y a moins de 25 millions d'années, a rapporté le magazine Nature en février 2024. Les chercheurs de l'Observatoire de Paris proposent que la sonde Orbilander de la NASA, qui doit visiter Encelade, une autre lune de Saturne, en 2050, passe près de Mimas. Mimas est aussi surnommée l'étoile de la mort, en référence au film Star Wars, à cause d'un cratère énorme par rapport à sa taille. Les vagues de Titan. Y a-t-il des vagues sur Titan, la plus grande lune de Saturne? Si oui, cela signifie qu'il y a du vent. Quelle est la source de ces brises? Telle est la question à laquelle ont tenté de répondre des océanographes et des astronomes américains en juin dans la revue Science Advances. Titan est le seul corps planétaire du système solaire, à part la Terre, à avoir des étendues liquides en surface. Les comparaisons entre l'érosion des côtes sur Titan, que les chercheurs attribuent bel et bien à des vagues, et sur Terre, permettent de mieux comprendre les mécanismes universels de création des berges. Ces océans sont constitués de méthane et d'éthane. Une centaine de planètes qui ne sont pas en orbite autour d'une étoile ont été observées dans la nébuleuse d'Orion par des astronomes européens. Elles sont en paires, orbitant l'une autour de l'autre, et se trouvent dans une région de la nébuleuse appelée l'amas du trapèze, qui est née il y a 1 million d'années. L'existence de ces systèmes planétaires binaires de la taille de Jupiter et donc appelés Jumbo contrevient au modèle actuel de formation de planètes orphelines parce qu'il est difficile d'imaginer que la binarité subsiste à l'éjection d'un système solaire. L'observation, grâce au télescope James Webb, a été décrite et expliquée en avril dans Nature Astronomy. L'hypervitesse stellaire. Une vitesse correspondant à 0,15% de la vitesse de la lumière, c'est le record établi par une étoile qui traverse la Voie lactée et a probablement été éjectée de son centre il y a 3 milliards d'années. Décrite en juin au congrès annuel de la Société astronomique américaine au Wisconsin, l'étoile, baptisée J1249+36, a été découverte dans le cadre d'un projet de science citoyenne visant à découvrir une 9e planète située plus loin que Pluton. Elle est située à 400 années-lumière de notre Soleil, qui, lui, se déplace 3 fois plus lentement par rapport au centre de la galaxie. La Lune et son magma. Des astronomes américains apportent une nouvelle preuve à la théorie qu'il existe toujours du magma liquide sous la surface lunaire. En mai 2024, dans le Journal of Geophysical Research Planets, les chercheurs de l'Université de Washington démontrent que l'interaction entre le champ magnétique de ce magma souterrain et des particules de vent solaire est la seule manière de créer certains des tourbillons de poussière de la surface de la Lune. La mission privée Lunar Vertex, financée par la NASA, doit d'ici quelques années explorer pour la première fois l'une de ces formations de poussière, Rainer Gamma. Le volcanisme lunaire a disparu il y a 1 milliard d'années, mais certaines petites éruptions ont pu avoir lieu jusqu'à il y a 50 millions d'années. La fin de la Station spatiale internationale. À peine un mois après avoir reçu de la NASA le contrat pour le désorbitage de la Station spatiale internationale, SSI, en 2030, SpaceX a déjà proposé un plan de match. Il s'agit d'utiliser le vaisseau cargo Dragon en triplant à 46 son nombre de fusées et en l'allongeant pour loger du carburant et des instruments de navigation. La SSI arrivera en 2030, à la fin de sa vie utile, et la NASA veut qu'elle se désintègre dans l'atmosphère de manière sûre et prévisible pour ne pas endommager de satellites. Le remorqueur de l'espace de SpaceX, financé par un contrat de 843 millions US, plongera la station de 430 tonnes dans le Pacifique. C'était « Aux quatre coins du cosmos », un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 août 2024 dans la presse.
Quand un paramédical vous évite d'aller aux urgences. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 16 août 2024 dans la presse. Avec son uniforme, ses épaules carrées et son air sérieux, David Ouellet a le look typique d'un paramédical, sauf qu'il n'est pas un paramédical comme les autres. David Ouellet est paramédical communautaire. Au lieu de conduire les patients à l'hôpital en ambulance, il visite plutôt à leur domicile des personnes âgées qui ont appelé le 911. On oublie souvent la crainte, l'anxiété des personnes âgées d'aller aux urgences, dit David Ouellet, paramédical communautaire chez Ambulance de Metz. Pour certaines personnes âgées, dans leur tête, quand on les amène aux urgences, elles ne reviendront pas dans leur maison. Quand on leur fait comprendre qu'on est là pour les aider et les maintenir à la maison, ça leur apporte un sentiment de sécurité et de sérénité. Au Québec, ils sont seulement une dizaine de paramédicaux à visiter les patients à domicile en auto sans leur ambulance. Environ 4200 patients par année en bénéficient. Ce type de paramédecine, la médecine par les paramédicaux, a commencé en Montérégie en 2019. Avec le vieillissement de la population et l'engorgement aux urgences, le CI3S de la Montérégie-Centre s'est demandé si on devait amener aux urgences toutes les personnes âgées qui composent le 911, même les cas mineurs qu'on peut régler autrement. Ils ont donc monté un projet pilote de paramédecine avec la bénédiction de Québec. Au lieu d'amener machinalement tous les patients de 65 ans et plus aux urgences, où ils attendront pendant des heures avant de voir le médecin parce que leur cas n'est pas urgent, on leur envoie plutôt un paramédical en voiture. L'auto de David Ouellet arrive souvent plus vite que l'ambulance, en une vingtaine de minutes. Je fais une évaluation plus approfondie de la situation et j'en discute avec l'infirmière, dit-il. Ensuite, il décide si le patient doit être transporté aux urgences ou si on peut lui offrir dans les 24 heures la visite d'une infirmière à domicile ou un rendez-vous en clinique avec un médecin de famille. En Montérégie, ce service est offert aux patients de 65 ans et plus qui appellent au 911 et qui sont des cas à basse priorité. Des personnes tombées et incapables de se relever, des maux de genoux, de hanches, de chevilles. En pratique, ce type de patient attend parfois des heures pour avoir une ambulance. Si la répartitrice du 911 soupçonne un cas sérieux, de haute priorité, exemple, douleur cardiaque, difficulté à respirer, on ne prend évidemment pas de risque. Vite l'ambulance. Beaucoup des appels au 911 ne sont pas des cas urgents au sens médical du terme. 64% des patients âgés pris en charge par le projet pilote en Montérégie ne se rendent pas aux urgences. Aussi, 37% des patients vont aux urgences, pas tant à cause de la gravité de leur cas, mais parce qu'ils doivent y passer des tests. Depuis quelques années, le Québec commence à prendre le virage de la paramédecine. Il était temps, car on a pris du retard, entre autres par rapport à l'Ontario. Dans le comté ontarien de Renfrew, un précurseur, la paramédecine se pratique depuis 2008. On fait actuellement trois types de paramédecine au Québec. 1. Pour les appels au 911, les cas non urgents sont dirigés au triage, vers une infirmière au téléphone qui essaie de régler leurs problèmes sans passer par les urgences. C'est en vigueur dans 13 des 17 régions. 2. Pour les appels au 911. Les paramédicaux qui arrivent en ambulance chez des patients avec des cas mineurs peuvent suggérer de régler ces problèmes grâce à un rendez-vous avec une infirmière ou un médecin, sans passer par les urgences, en vigueur dans 9 régions. 3. En Montérégie, à Montréal et à Laval, le triage du 911 assigne en plus certains cas mineurs à un paramédical communautaire qui va seul au domicile des patients, sans ambulance. Pour le réseau de la santé, ça coûte 2 fois moins cher qu'une ambulance. La paramédecine comporte beaucoup d'avantages. On contribue à désengorger un peu les urgences. Avec le vieillissement de la population, on va avoir un tsunami d'enjeux auxquels on n'est pas préparé, dit la docteure Sophie Gosselin, urgentologue et médecin coordonnatrice aux urgences de l'hôpital Charlemagne à Longueuil. Les urgences ne pourront pas absorber toutes ces visites-là. On se sert de l'expertise des paramédicaux et des infirmières pour les cas mineurs qui ne nécessitent pas l'intervention d'un médecin. On soigne les patients plus vite. En Montérégie, le délai de réponse pour avoir un paramédical communautaire est d'environ 30 minutes, contre au moins 8 heures aux urgences. On soigne les patients à domicile. On prolonge aussi la carrière de plusieurs paramédicaux, un métier très physique, où il faut être capable de lever les patients. David Ouellette souligne « En vieillissant, on a nos petits bobos, nous, ici. » C'est une belle porte de sortie pour les paramédics qui ne sont plus capables de lever les gens. Et le plus important, les patients sont satisfaits. En Montérégie, le projet pilote a un taux de satisfaction soviétique de 96%. Pour toutes ces raisons, le ministre de la Santé Christian Dubé veut déployer la paramédecine plus largement, en fonction des résultats des projets pilotes et des particularités de chaque région. Selon le cabinet du ministre Dubé, une infirmière ou un paramédical peut répondre aux problèmes de santé ne nécessitant pas de soins immédiats, afin que les transports aux urgences servent aux patients ayant des problèmes plus urgents. Il faudra peut-être moderniser nos lois mal adaptées à la paramédecine. Elles exigent qu'un appel au 911 se termine par un transport à l'hôpital, si c'est la volonté du patient. Les paramédics ne peuvent pas évaluer la condition physique et mentale des patients, dit Julie Nantel, infirmière clinicienne et conseillère chez Urgence Santé, qui dessert Montréal et Laval. Ils appliquent des protocoles et doivent transporter des patients. Ils n'ont pas de latitude. C'était « Quand un paramédical vous évite d'aller aux urgences », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 16 août 2024 dans La Presse.
Le renard, meilleur ami de nos ancêtres? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 27 juin 2024 dans Québec Science. Une étude révèle que Ducicion avus, une espèce de renard aujourd'hui éteinte, pourrait avoir été notre fidèle compagnon il y a quelques 1500 ans. Argentine, 1991. Des archéologues fouillent minutieusement un site funéraire datant de 1500 ans, près de Buenos Aires. De nombreux ossements sont exhumés, ceux de 24 individus, mais aussi un squelette presque complet de canidés. En se fiant à sa morphologie, les scientifiques l'identifient comme un lycalopex, un canidé proche du chien. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais 3 décennies plus tard, une équipe de recherche a décidé de se pencher, elle aussi, sur ces ossements. Après des analyses génétiques, cela ne fait plus de doute. Le canidé est en réalité un Ducicion avus, une espèce de renard éteinte depuis 500 ans. Pourquoi a-t-il été enterré avec des humains? On sait que les renards avaient une importance symbolique pour les chasseurs-cueilleurs en Amérique du Sud. Explique Ophélie Le Brasseur, zooarchéologiste à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, qui a participé à cette étude réalisée en étroite collaboration avec l'Institut de l'évolution, de l'écologie historique et de l'environnement d'Argentine. Mais une deuxième surprise attendait les scientifiques. Les ossements du renard ne présentaient pas de traces de découpe qui auraient indiqué que l'animal avait été chassé puis mangé. À l'aide d'analyses isotopiques qui comparent la signature de certains éléments chimiques des os avec celle de différentes sources de nourriture, son régime alimentaire a aussi été retracé. Celui-ci n'avait rien à voir avec son alimentation naturelle et était très semblable à celui des humains à ses côtés. Ces résultats ont été détaillés dans la revue Royal Society Open Science en avril 2024. Ça démontre assez bien que ce renard pouvait avoir une relation plus forte qu'économique ou symbolique avec les humains, qu'il peut même avoir été un compagnon à part entière dans leur société, avance la chercheuse. De là à parler de domestication, il n'y a qu'un pas qu'elle préfère ne pas franchir. On n'a qu'un seul échantillon, rappelle-t-elle. De même, on peut imaginer que ce renard pourrait avoir aidé ses maîtres à chasser, par exemple. Mais tout cela reste très hypothétique. Est-ce que cet individu avait moins peur des humains et a donc été mieux intégré? C'est difficile à dire. Un autre mystère persiste. Pourquoi Dusicyon avus s'est-il éteint? Les analyses génétiques montrent qu'il n'aurait pas pu être croisé avec le chien domestique. Donc, l'hypothèse d'une dilution de l'espèce est écartée. Mais d'autres pistes restent ouvertes. Changement climatique, intensification de l'activité humaine. Quoi qu'il en soit, cette recherche incitera peut-être d'autres équipes à réexaminer les vieux ossements oubliés sur les tablettes d'université. C'était Le renard, meilleur ami de nos ancêtres? Un texte de Chloé Bourquin paru le 27 juin 2024 dans Québec Science.